mort au rat. Les boulettes empoisonnées, signé Rongemaille.
Quand il a compris qu'il venait de coucher avec sa propre fille, au petit matin blême du lendemain de cette soirée de Nouba où il s'était senti comme le roi du monde, Roger fit comme une dépression instantanée. Ce genre de malaise sans bruit, sans vacarme, qui vous plonge un individu dans un puits sans fond dont personne, jamais, ne réussira à l'extirper. Roger avait 45 ans et un mal de crâne, comme à son âge, il ne pouvait plus en supporter. Il vit que la chambre de bonne dans laquelle sa propre fille dormait était au 8e étage. Alors il enjamba le balconnet branlant, se décela tout seul et s'abattit avec lui sur une voiture stationnée en bas. Comme cette rambarde s'était décrochée, l'emportant avec lui, on jugea qu'il ne s'agissait que d'un bête accident, dû à la vétusté de certains immeubles parisiens, encore de nos jours. Quand la petite Marie-Claude, alias Natacha, revint chez elle vers midi, son cabas tout rempli de produits frais du marché et un vague sentiment d'amour qui s'était déposé durant la nuit au fond de son petit cœur encore tendre, elle fut chavirée d'apprendre que Roger avait chu et s'était ainsi tué. Pour une fois qu'elle réussissait à en attraper un qui avait l'air à peu près normal, se dit-elle, c'était pas de chance. La maréchaussée la questionna sur le lit défait, la paire de menottes, sur la boîte de préservatifs dans le tiroir aussi, sur quelques produits et quelques objets qui décoraient ses étagères comme dans un magasin de Pigalle. Elle fit la sotte, et les flics rigolèrent parce qu'ils la connaissaient bien et que c'était le genre de fille qui jamais ne leur avait causé d'histoire. Ces messieurs lui firent tout de même un sermon sur l'insalubrité du lieu, l'avertissant qu'elle risquait d'être obligée d'aller coucher ailleurs le temps que le propriétaire remette tout ça à neuf. Marie-Claude appela sa maman, qui était aussi propriétaire de l'immeuble et avait toujours tenu à ne jamais demander de loyer à sa fille, contrairement aux autres régulières qui travaillaient dans les appartements voisins. Bon sang ne saurait mentir, il était hors de question que Morissette abuse de Marie-Claude comme elle abusait des autres filles, interchangeables après tout. On releva les identités, on prit les dépositions. Personne n'avait rien vu, juste entendu un gros bruit. On laissa donc ces dames tranquilles. En bas, il y en avait bien un qui faisait du bazar. C'était le propriétaire de la 104 vert bouteille et rutilante qui s'était pris moitié capot, moitié pare-brise, les 85 kilos de Roger et à peu près la moitié de fer forgé, rouillé, agrippé à des bouts de plâtre pour. L'inspecteur fit la moue en scrutant le résultat et un agent lui apporta les papiers que ce malheureux avait gardés sur lui. Dans le portefeuille du défunt, il trouva une photographie qu'il avait déjà vue là-haut, dans la chambre de la petite. Morissette, qui n'avait pas beaucoup changé, et un grand type, déjà dégarni mais vaillant, tout bronzé, s'étreignant assis tous les deux sur un rocher, une pinède ensoleillée et la mer infinie derrière eux. Lui, par contre, avait beaucoup vieilli. Pris d'un sentiment soudain de malaise profond, l'inspecteur remonta au 8e, se glissa entre les enquêteurs qui s'affairaient à relever les empreintes, fit disparaître de la commode le cadre photo au fond de sa vareuse, jeta un dernier coup d'œil aux capotes usagées jetées par terre et décida, pour le bien de tout le monde, de se tirer de là vite fait.
While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finnan Haddy, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply